Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ça commence à partir de 3 ans, adolescents et adultes également. Le cours Anna, ce sont des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, des cours de théâtre, des cours de cinéma, des cours d'improvisation et également des cours de stand-up. Mais le cours Anna, ce sont également des podcasts. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité très spécial, Stummy Bugsy, rappeur emblématique du groupe Ministère Hammer, acteur talentueux et figure incontournable de la scène hip-hop française. Stummy Bugsy a marqué des générations avec ses textes percutants et son charisme indéniable. Au fil de cette discussion, nous prolongeons dans son parcours, ses inspirations et ses projets actuels. Préparez-vous à découvrir l'univers fascinant de cet artiste multifacette. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bonjour Stummy.
Bonjour Johanna Cohen, ça va? Quelle présentation, merci.
Mais j'ai envie de te dire, c'est le minimum de base.
Merci, merci.
Acteur, chanteur, multifacette. Déjà, merci mille fois d'avoir répondu présent. Et je peux vous garantir que ce n'était pas une mince affaire. Je suis passée par la porte, par la fenêtre. J'ai tout fait pour pouvoir la voir. Parce qu'au cours Anna, on t'aime. Et voilà, ça m'aurait ennuyé de ne pas réussir à t'avoir au micro avec Johanna.
Je respecte, t'es très tenace. Quand tu veux quelque chose, tu lâches pas. Franchement, salutations.
Mais est-ce que c'est un peu le but aussi de ce métier? Est-ce que dans ce métier-là, tiens, si on parle cash, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut passer par toutes les portes? Toi?
Surtout au début, il ne faut rien lâcher. Parce qu'après, bon, tu rentres dans une route, pas une routine, mais tu as tes contacts, on te connaît. Mais au début, c'est clair qu'il ne faut rien lâcher. Il faut être un enragé, il faut être un passionné. Et je pense, même maintenant, à mon niveau, il faut être obsédé. En fin de compte, il faut être obsédé par ton art, par ton disque, par tes créations. Oui, oui,
il
faut être...
Il faut y croire.
Oui, même plus que ça, même. Il faut être obsédé.
Ouais. C'est un scoop. Stummy Bugsy est un obsédé. C'est mignon. Pourquoi Stummy Bugsy? Tiens, ça vient d'où?
Alors, Stummy Bugsy, ça vient du label, le premier disque de rap que mon père m'a offert. Il m'a offert un disque de Africa Bambaataa et le label s'appelait Tommy Boy. Tommy Boy, et donc j'ai rajouté un S, j'ai enlevé un M, Stummy. Parce que les petits bonhommes, le label, il existe toujours. Le petit bonhomme, il avait un gros bonnet avec un K.O.A., c'était un breaker. Moi, je breakais beaucoup. Et souvent, les mecs, ils me disaient « Ah, on dirait toi, Stummy. On dirait toi, Gilles. » Après, je dis « Ah ouais, on dirait que c'est moi. » Et après, avec un pote Rico, qui était aussi un grand rappeur de Sarcelles, on a trouvé ce nom, Stummy B, avec mon pote Rico.
Ça claque, non?
Moi, je trouve que Stummy Bugsy. Johnny Hallyday me le disait souvent. Il me disait ça, Stummy Bugsy. Il me dit « Ah, j'adore ton nom, ça claque. »
En tous les cas, ça claque. Merci. Et ça résonne encore 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, non? Est-ce qu'on te reconnaît encore? Je suppose que oui.
Oui, ça va. Ça va, ça va.
Et alors, ça va?
Ouais, je suis cool avec les gens, je reçois que de l'amour tous les jours. Ouais. Ouais. Beaucoup d'amour, des photos, des autographes, des accolades, des bisous. Ouais.
Des « je t'aime, Stummy »
Ouais, ça arrive, ça arrive.
Alors, tu as quand même marqué le passage musical français avec le ministère Hammer. Ton plus gros souvenir de cette période-là?
Mon plus gros souvenir avec Ministère Hammer? Mon plus gros souvenir, le plus beau souvenir, c'est quand mon fils Ladior, pas mon fils Ladior, c'est le dernier Ladior.
C'est le dernier.
Bilal. Quand mon fils Bilal est né, il fallait que je trouve un travail. Mais j'avais sorti mon premier disque avec Ministère Hammer. Le premier disque qui s'appelait Traître. Donc on en a vendu 30 000. On ne pouvait pas encore gagner notre vie, vraiment, avec Passy, Getch, Kenzie, Moda. Et donc, mon enfant est né et sa maman ne peut pas s'occuper de lui. Donc, elle me le donne dans les mains, il a 2 jours. Et donc, mon fils, il a été élevé par moi, ma mère et ma petite sœur. Et mon père aussi, il habitait à la maison à cette époque. Et donc, je dois trouver un travail absolument. Parce que j'amène mon petit, j'étais parti déjà de chez moi. Donc j'habitais à droite, à gauche, chez des copines, chez des potes. J'habitais avec Passy dans sa chambre d'université, dans un 12 mètres carrés à Nanterre. J'habitais à droite, à gauche, j'étais parti de chez moi. Et là, je reviens chez moi et je dis à ma mère, bon, elle est tombée enceinte et elle peut pas le garder. Donc ma mère, elle me dit, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit...
Moi, je le garde.
Voilà, elle me dit, c'est pas grave, mon fils. On va le garder, on va l'élever. Donc moi, je ramène mon petit à la maison avec elle. Et je me dis, il faut que je trouve un travail. C'est bien beau le rap, mais pour l'instant, ça ne paye pas.
Ah, ça ne payait pas encore?
Ça ne payait pas.
Ah, t'avais quel âge?
18 ans. Non, j'allais avoir 20 ans. Voilà, à l'époque, quand elle est tombée enceinte, j'avais 19 ans et demi. Et ça ne paye pas. Donc je reviens chez moi, et bon, au début, je commence à faire des conneries à droite à gauche, des cambriolages, des trucs comme ça. Je me dis, bon... J'ai pas envie que mon enfant, j'ai pas envie de me retrouver en prison. Ma mère va me dire quoi, t'es un fou toi. Tu me ramènes un petit ici, tu me ramènes un petit que je dois élever, et tu te retrouves en prison. Je dis non, allez, je vais trouver un travail. Donc je vais à la NPE, où ils me donnent un travail à l'hôpital de Chelles, et tireur de câbles dans les égouts. Donc je travaille 4 jours là-bas, on tire les câbles dans les égouts, clac clac avec des bottes, pff, dégueulasse, tout clac 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 clac. Et il y a un mec dans l'hôpital, il passe avec une camionnette, un travailleur, et il me reconnaît, il me dit « Stommy, Stommy, qu'est-ce que tu fais là, Stommy, Stommy, c'est ta mère, je suis fou de toi, je suis fou de vous, putain !» Il me dit « Bouge pas, bouge pas, bouge pas !» Moi, je lui dis « Bouge pas, surtout pas !» Je dis « Qu'est-ce que tu fais, bouge là, je suis en train de travailler, mon frère, je suis dans les égouts, des bottes, je vais bouger. » Et il revient avec le CD du ministère amer, traître, et il me donne le CD comme ça.
Pour que tu le signes.
Pour que je le signe.
Et là,
moi, je suis dans les égouts. Enfin, des égouts, c'était pas vraiment les égouts, mais tu vois, un truc profond, presque, quoi.
Ouais.
Mais ma tête qui sort là, et avec les bottes et tout, et je lui signe l'autographe comme ça. Et ça, c'est mon premier autographe.
Tu vois?
Et c'est mon plus beau souvenir avec Ministère Amer.
Ça
veut dire que même quand t'as les pieds dans la merde, ton rêve peut te porter haut. Et ton rêve te continue, ton rêve te fait continuer d'avancer.
C'est magnifique.
Voilà.
Donc toi, tu n'as pas de formation, tu n'as rien. Tu n'avais pas pris de cours de chant, tu sors de la...
Il y avait
tu sors
pas
des
les
braquages,
cours
de la banque.
Il n'y avait pas les cours Anna Sarcelle. Fallait Johanna.
Donc toi, tu es un autodidacte pur et dur.
Ouais. On sait.
Jusqu'à maintenant
on a appris... J'ai pris des petits cours de piano maintenant, tout ça, ouais. Mais oui, je suis autodidacte. Ouais, il n'y avait pas Sarcelle et... Mes parents, ils venaient du bled, donc même s'inscrire au foot, c'était un truc de foot. Tu demandes, est-ce que je peux m'inscrire au foot? Ils me disent, mais joue en bas au foot. Tiens, prends un ballon, joue au foot. Et je les comprends, ils avaient d'autres soucis. Tu vois, ma mère, elle arrivait, elle ne parlait pas français, il fallait qu'elle apprenne à parler français, qu'elle trouve un travail, qu'elle se batte, qu'elle s'intègre. Et mon père aussi, mon père, il parlait français parce que lui, il a grandi au Sénégal. Le Sénégal, c'est une ancienne colonie... française, donc il parle français, il parle très bien français, il est très éduqué, mais voilà, donc il n'y avait pas de cours, il
n'y
avait pas les cours Anna, ça, voilà.
Donc il y avait...
Pourtant, Dieu sait qu'il y a beaucoup de Cohen, mais il n'y avait pas les cours Anna.
Il n'y avait pas. Bon, écoute, maintenant il y a.
Voilà.
Donc, premier autographe, un souvenir de fou.
Mm-hmm.
Quand tout a explosé pour toi? À quel moment?
Alors, la période Ministère Amer, on sort notre premier disque en 90-91, je crois, le premier maxi. Mais on a commencé déjà avec Passy à rapper depuis 89. On fait des petites radios, Radio Star, Radio Nova, etc. Et après, on sort notre premier album, Pourquoi tant de haine? On a pas mal de soucis. Charles Pasqua, il porte plainte contre nous pour des morceaux comme Brigitte, femme de flic, Garde à vue, des morceaux très hardcore. Deuxième album, 95-200, cet album-là, il sort en 94, il est un peu plus travaillé, il est considéré comme l'un des meilleurs albums de rap français de groupe. Et donc, les deux albums, c'est des succès, si tu veux, c'est des succès... du public, hip-hop, on en vend, mais pas encore assez pour bien vivre. Ça commence à vraiment cartonner quand moi et Passy, à un moment, je lui dis, Passy, moi j'ai mon petit chez moi.
Faut que je soulage ma mère.
Faut que je soulage ma mère. Et Ministère amer, c'est bien beau. On fait la révolution. On a des textes hardcore, mais c'est pas ça qui va mettre des pattes. C'est pas ça qui va mettre des pattes dans le placard. Donc, on décide de faire nos carrières solo. Mais tout en restant connecté et frère pour la vie. Et donc, on se dit, on a assez de talent, assez de personnalité. Et même déjà dans Ministère amer, il y avait. On avait des morceaux en solo. Tu vois, dans le premier album, Passy, il a Le Savoir, il a Prisonnier de la Monnaie, moi j'ai Brigitte Femme de Flic, j'en ai encore un autre. On en a, à chaque fois, même dans le deuxième album, c'était convenu comme ça depuis le début. Donc on fait nos carrières solo. Et Gynéco, il signe à Virgin et cartonne. Moi, je sors mon premier album, Le Calibre, qu'il te faut, et avec le titre Mon papa, moi, est un gangster, et voilà. Après.
Et ça y est, après, waouh!
Après, je passe de rappeur super hardcore à Père Noël noir, quoi. Le Père Noël, tous les enfants, ils sautent sur moi, ils m'adorent, les mamans, les papas, les. Ouais. Après, c'est incroyable.
Est-ce que tes deux enfants peuvent aujourd'hui dire mon papa à moi est un gangster?
Non, je ne suis pas un gangster, je ne suis plus un gangster. Je ne suis plus un gangster, non, pas du tout, au contraire. Je suis une crème.
Tu crois qu'on pourrait avoir juste a cappella comme ça, juste pour le kiff de mon papa à moi est un gangster, trois notes?
Alors, je crois que la phrase la plus importante, c'est sorti tout droit d'une ambiance folle, mais tôt le matin, il m'amène à l'école. Fatigué de ses soirées agitées, il me dit que c'est le studio, mais c'est vrai qu'il travaille dur, mais pas quand il a du rouge à lèvres sur les habits, ça c'est sûr. Dès l'ascenseur, il fait des clins d'œil aux mamans accompagnant leurs enfants. Il est épatant, pleure même d'un œil. De tous les côtés, il n'arrête pas de mater. Comme ça, comme s'il était recherché. Je ne suis jamais certain que c'est lui qui viendra me chercher à 4h30. Avec un style d'affranchi, une nouvelle petite amie. Mon papa, c'est le plus fort. Quand il entend « pas un pont », il s'évapore. Pas besoin de revolver. Mon papa, à moi, est un gangster.
Merci beaucoup. Waouh! Ça t'est venu d'où toute cette inspiration?
C'est ma vie. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand elle est née, je faisais des cambriolages, ça ne fonctionnait pas. J'étais déjà parti de chez moi, donc j'avais une vie un peu tumultueuse. Et voilà. C'est venu tout simplement de ma vie.
Une séance de travail chez Stomy Bugsy, ça se passe comment? Une feuille, un stylo, alcool, on fume, on fait quoi?
Non, pas d'alcool. Ça dépend quel.
T'es un mec hyper sain.
Ouais.
Ça, je sais.
Ouais. Non, pas d'alcool, pas de fumette. Je me réveille tôt le matin. En principe, si je me réveille à 5h du matin et je commence à écrire, c'est bien. Mais sinon, je m'enferme dans ma cuisine. Voilà, j'aime bien m'enfermer. Je m'enferme dans ma cuisine et je mets la musique et j'écris. Après, j'ai plein de notes. J'ai plein de notes. Avec des phrases, des punchlines, de la poésie. Et voilà, je rentre en transe et j'écris.
Tout seul?
Je peux écrire tout seul, mais c'est vrai que là, sur le nouvel album, il y a plein de titres où j'écris tout seul. Et des fois, je peux écrire avec quelqu'un. Ouais. Je suis pas limité, je peux écrire avec quelqu'un, mais c'est vrai que c'est moi qui apporte toute la matière en général. Mm-hmm. 70% du travail, après, ça dépend. Mais ouais, souvent tout seul.
Je vais te montrer une petite vidéo. Mm-hmm. Ça t'évoque quoi?
C'était à l'Olympia. Mmh. Non, là, c'est Jackie qui fait. Non, ça, c'est l'Olympique ou pas, ça? Ouais.
Pour quelle occasion?
Ça, je crois que c'est pour le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage.
Exactement.
Mmh. Ça me fait bizarre à chaque fois de me voir arriver.
On en parle un peu?
Ouais, c'était un bon moment. C'est vrai que à l'époque, on parlait pas souvent de l'esclavage ou l'anniversaire de l'abolition. Maintenant, il y a un jour, c'est le 10 mai. Et à l'époque, il n'y avait rien du tout. Et avec mes amis, avec Passy, avec Kenzie et Bobo, on se demandait à chaque fois, mais comment ça se fait qu'il n'y a rien dans ce pays? C'est un pays qui a participé à la traite négrière, à l'esclavage, qui a eu la colonisation. Il n'y a rien. Il n'y a pas de jour férié. Il n'y a pas de commémoration, c'est pas reconnu.
Il n'y a pas d'événement, il n'y a rien de spécial.
Oui, il n'y avait rien du tout à l'époque. Et même maintenant, il y a, mais bon.
Oui, parce que vous la poussez un peu.
Voilà, c'est...
c'est à nous, là, parfois, de...
C'est clair.
D'amener les choses.
Oui, c'est à nous, les artistes, de mettre la pression. Ouais, nous, on est là, les artistes, et on est là pour rendre le monde meilleur. Quand on va mal, on écoute la musique, on regarde un film, c'est super important, l'art. Souvent, on minimise l'importance des artistes. Mais on l'a vu pendant le Covid.
Oui.
Sans l'art, qu'est-ce que tu fais pendant le Covid?
Rien.
Si t'as pas Netflix, tu regardes pas de films, t'écoutes pas de musique, tu fais quoi? Tu lis pas de livres, tu fais quoi?
Tu lis plus, malheureusement.
Voilà. Donc la littérature, le cinéma, et la musique, les arts plastiques, la peinture, c'est primordial. C'est primordial.
Donc vous avez essayé donc d'amener ce projet pour réussir à faire une fois par an un événement autour du sujet.
Oui, après il y en a plein d'autres qui ont pris le relais, mais c'est vrai que peut-être qu'on a inspiré Jacques Chirac à reconnaître
c'est sûr.
L'esclavage comme crime de l'humanité, de pouvoir célébrer nos ancêtres qui ont été... kidnappés, assassinés, torturés, violés, et leur rendre hommage le 10 mai.
Bravo en tout cas.
Merci, Johanna.
La musique, mais pas que.
Uh-huh.
On a beaucoup... Là, je sais que je t'ai vu il n'y a pas longtemps dans une pièce de théâtre folle, au petit théâtre du gymnase. Mmh. Un jour, j'irai à Détroit. C'est... Waouh. C'est un super, super projet. C'est Stomy Bugsy en acteur. C'est Stomy Bugsy bourré d'émotions, bourré de choses à sortir sur scène. Comment tu as travaillé ce rôle? Comment ça s'est passé, cette rencontre?
En fin de compte, David Desclos, mon ami avec qui j'ai écrit la pièce de théâtre, il avait vu des passages de moi à Los Angeles. Quand j'étais dans une école de théâtre là-bas, à Stella Adler Acting School. Et avant ça, j'étais dans une autre école, l'école de David Baruch, et Metal Acting Center. Et après, je suis parti à Los Angeles pour continuer. Et là-bas, j'ai fait des pièces de théâtre, j'en ai fait 5. Et je lui ai montré mes passages. Et David, il m'a dit, mais les gens, ils ne savent pas que tu fais du théâtre, Stomy. J'ai dit, non, j'en ai jamais fait en France, j'en ai fait en anglais et tout ça. Et donc lui, il avait ça derrière sa tête. Il me dit, il faut absolument que les gens te voient sur scène. Parce que justement, j'étais en train de faire sa mise en scène pour son spectacle, Écroué derrière. Donc des fois, je lui montrais un peu comment jouer. J'étais en train de le diriger, de faire mon boulot de metteur en scène. Et lui, il me dit, ah non, tu joues trop bien, Stomy, il faut absolument. Donc un jour, il m'appelle, il me dit, Stomy, j'ai une idée. On va faire une pièce de théâtre sur le massacre de Tiaroy. Et moi, je le regarde droit dans les yeux, comme ça. On était en visio, comme ça. Et je lui dis, tu sais quoi, je vais t'envoyer tout de suite un message que mon père m'a envoyé il n'y a même pas une semaine. Et mon père, il m'envoie un message avec une capture d'écran. Mon fils, il faut que tu fasses une pièce de théâtre sur le massacre de Tiaroy.
Incroyable.
Je lui envoie ça.
C'est un signe.
Waouh. Je me suis dit, voilà, c'est les ancêtres qui se manifestent. J'ai dit, il faut absolument qu'on fasse la pièce de théâtre. Donc, il a écrit 10 pages. J'étais en concert à Rouen avec le secteur A, il me les a amenés, j'ai adoré. Et j'ai dit, ok, on va continuer d'écrire la pièce. Et on l'a écrit, la pièce à deux. Un jour, j'irai à Détroit, qui parle des tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas que sénégalais, qui venaient de toute l'Afrique. Et c'est vraiment axé sur... Il y a mon personnage qui s'appelle Jili, qui est un tirailleur guinéen, qui refuse de retourner en Afrique sans qu'on lui ait donné sa paye, sa solde de soldat. Parce qu'il a une famille, il faut qu'il rentre au pays avec de l'argent. Et donc lui, quand il refuse, ses généraux lui disent « Allez au camp de Tiaroy et là-bas, vous serez payé. Allez là-bas. » Croyez-moi, vous serez payé. lui, il sent un peu l'entourloupe, il refuse, il est jeté en prison. Et il est jeté en prison à Fresnes. Et quand il arrive à Fresnes, sur sa cellule de droite, il y a ce soldat qui est joué par David Desclos, qui est un soldat français, qui est tiré aussi d'une vraie histoire, qui a été jeté en prison parce qu'il a refusé de combattre avec le pantalon ensanglanté d'un soldat mort. Et dans la cellule de gauche, il rencontre un... Ils ne se voient pas, ils sont...
Ouais.
Ils communiquent juste avec les voix. Il rencontre un soldat, un jeune soldat américain, qui est en prison parce qu'il était tétanisé sur le champ de bataille. Et Dieu seul sait que sur un champ de bataille, c'est terrible. Il y a des bombes, il y a des morts, il y a des éventrés, il y a des boyaux partout. Et lui, il était tétanisé, donc il a été jeté en prison pour désertion. Et lui, c'est un soldat américain d'origine juive. Et on a ce Français-là, et on a mon personnage, Djili, un tirailleur guinéen. Donc, on a une espèce de folle... Au début, ils ne se connaissent pas, donc ils se chamaillent, ils se titillent, ils se vannent, mais à la fin, c'est un vrai message bourré d'humanité, de révolte et d'amour. Ouais. C'est une belle pièce.
Plus que belle pièce, c'était poignant.
C'était dur à jouer.
Bah ouais. Tu t'es préparé comment pour jouer, pour jouer ce rôle?
Bon, on a beaucoup travaillé aussi avec David, on a fait pas mal d'archives. Et on a travaillé aussi avec une historienne qui s'appelle Armelle Mabon, qui connaissait le sujet sur le bout des doigts aussi. Ses écrits nous ont beaucoup aidés, on a travaillé avec elle. Et après, je me suis imprégné vraiment du rôle. J'avais des notes, j'avais des...
Toujours tout seul?
Ouais, la partie acting, ouais. J'avais mes notes sur mon personnage, j'avais son cahier intime. Voilà, il fallait que j'imagine comment son papa était, comment sa mère était, la voix de sa mère, la voix de ses frères et sœurs, ses écrits, ses prénoms. Il fallait que j'aie plein de petits détails comme ça pour pouvoir m'accrocher au personnage, parce que c'est une pièce qui est assez douloureuse, assez très belle à jouer, mais...
C'est rempli d'émotions.
Ouais, il fallait que j'aie des outils auxquels m'accrocher.
Est-ce que tu conseillerais à tous les enfants de faire du théâtre?
Ouais, non, c'est merveilleux. Ouais, ça te donne une confiance dans la vie et c'est beau. Ouais, c'est beau. Moi, je sais que les cours de théâtre ont fait de moi un meilleur être humain.
C'est déjà bien, déjà. T'avais un bon fond.
Ouais, il y avait une base.
T'avais une bonne base.
On va dire ça. Ouais, dès que j'ai commencé à vraiment essayer de comprendre mes rôles, au théâtre, dans les écoles de théâtre. Donc, quand tu commences à essayer de comprendre la psychologie de ton personnage, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a trahi, pourquoi il a menti, ou pourquoi, et tu commences à moins juger ton personnage, à essayer de le comprendre. Et quand tu commences à essayer de comprendre ton personnage, finalement, tu essaies de comprendre les autres, les gens qui vivent autour de toi. Et après, essayer de leur trouver des qualités. Voilà, moi, je sais qu'il y avait un avant et un après-théâtre.
Et la télévision, elle est venue avant le théâtre?
Moi, ma première émission télé que j'ai faite, c'était en 1984, justement le jour où mon père m'a amené participer à l'émission de hip-hop sur TF1. J'étais un petit bout de chou, je devais avoir 13 ans, je pense. Et c'est ma première émission que j'ai faite. Donc,
ça t'a toujours donné envie d'être sur les plateaux télé?
Ouais, peut-être danser. Ouais, avant, j'étais danseur. Pas avant, danseur. Et après, l'acting est arrivé après, le rap. Mais voilà, c'est la même chose, tout ça.
Bien sûr. Donc, ouais. On a le côté chanteur, on a le côté comédien, et on a le côté acteur aussi. Ça, c'est venu là, il n'y a pas longtemps. Pareil, grâce à des opportunités.
Après, quand j'étais petit, je me rappelle, à l'école, bon, j'étais à... Laisse tomber.
On ne veut pas savoir, on s'en fout.
J'étais vraiment... Mais je me rappelle, il y avait un atelier photo où il y avait un photographe qui venait le samedi et il nous faisait faire il nous faisait faire il nous faisait faire des comment tu sais, pas des romans photos là tu vois
des romans photos.
Et moi je m'y prenais tellement que le mec il était fou de moi quoi. Il me disait ah, il faut Gilles encore pour mes ateliers théâtre parce que j'arrivais à engrainer tout le monde et à les mettre dans des situations. Donc, dès petit, j'avais ce truc-là. Ouais. Ouais, j'avais ça, j'avais cette envie.
Premier rôle au cinéma ?
Premier rôle au cinéma, alors... je pense que c'était peut-être dans ma Cité va craquer. Ouais. Mais déjà, dans mes... ils sont venus me chercher, les réalisateurs, parce que dans mes albums et dans Ministère amer, je rentrais à chaque fois dans des personnages. Il y a des morceaux comme « Je flirte avec le meurtre » ou... super violent, et je rentre carrément en transe quand je chante cette chanson, ou même dans Brigitte, femme de flic, et après dans mon premier album solo, je rentre dans plein de personnages de la mafia. D'ailleurs, mon nom Bugsy, il vient de là. Tommy, ça vient du label Tommy Boy, mais Bugsy, ça vient de Benjamin Siegel, alias Bugsy. C'est un gangster, c'est le premier qui a eu cette vision de créer Las Vegas. Un jour, il traversait Las Vegas, qui était qu'un désert. Et à un moment, il s'est arrêté là, il a dit, mais il faut faire un casino ici. Voilà. Donc c'était Bugsy Siegel, c'était un gangster d'amour aussi. Fou amoureux de Virginia Hill.
C'est Tommy Bugsy au grand cœur et un cœur d'artichaut, non ? Aussi un petit peu très sensible.
Ouais. On va dire que je suis même hyper sensible.
Sous cette carapace pleine de muscles. Oui, mesdames et messieurs, Tommy Bugsy est un homme sensible. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager particulièrement, est-ce que si tu avais un message à faire passer maintenant, tout de suite
Dites aux gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez très très fort, vivez de vos passions. Les gens qui vont nous écouter, c'est des artistes, donc je pense que le message il est passé tout à l'heure. Soyez obsédés comme Johanna Cohen, ne lâchez rien. Elle m'a appelé au moins, je sais pas, tu m'as appelé 15 fois au moins. Des messages. Alors, mon podcast. Alors, mon podcast. Mais franchement, je respecte ça. Je respecte ça et ouais. C'est super d'être obsédé comme ça et de pas lâcher l'affaire, d'être passionné.
D'être passionné.
Ouais, jour et nuit. Quand t'es un artiste, ouais, on va focaliser sur les artistes. Voilà, travaillez sur votre art tous les jours. Plus on travaille, plus on devient meilleur, plus on écrit, plus... Tous les jours. Moi, je sais que si je n'écris pas pendant 4 jours, dès que je lâche un peu, l'inspiration, elle retombe.
C'est sûr.
Ah ouais.
Je vais te montrer une dernière vidéo. Mmh.
Ça, c'est avec les élèves du cours Anna, ça. C'était aux 10 ans du cours Anna,
les 10 ans du cours Anna. Le mec, on l'a appelé et on lui a demandé, on aimerait que tu viennes chanter pour les 10 ans du cours Anna. Fallait que je célèbre ça avec des artistes qui étaient venus partager, avec des enfants, avec des ados, pour venir faire des masterclass. Tu m'avais répondu oui il y a déjà quelques années et c'était un super beau cadeau que tu nous avais fait à venir partager avec
Les élèves et les profs aussi. Il y avait des profs qui chantent aussi.
Là oui, là tu avais chanté avec Marion Burat, qui est l'une de mon coach vocal du cours Anna. C'est un super joli souvenir en tous les cas.
Merci, en plus c'est ce jour-là que j'ai rencontré Marc Fichel.
Exact.
Marc Fichel qui chantait et au piano aussi, qui est un artiste fabuleux. Et je l'ai rencontré ce jour-là et j'ai adoré, on a eu un très très bon feeling et là on travaille ensemble sur des très belles chansons. Marc Fichel.
Il paraît.
Ouais, des très très belles chansons.
Je vais le voir ce soir pour la fête de la musique. Tu vas pas ?
À Rungis, ouais. Normalement, je devais y aller, mais comme j'ai un concert demain matin.
Ouais, tu peux pas tout faire.
Ouais.
C'est quoi les projets de Tommy Bugsy ?
Alors, là, c'est la musique. La musique.
Là, on est à fond musique.
Ah, album, ouais, la musique.
Ouais. Mais quoi, est-ce qu'on peut en savoir un peu ? Un petit peu plus ?
Un très bel album, enfin, j'espère. Enfin, pour moi, il était très beau.
Tu t'es inspiré de quoi ?
Je me livre beaucoup sur ma vie, ouais, sur ma vie. L'amour.
Ouais. Toujours l'amour.
Ouais, toujours l'amour.
Tout seul? T'as écrit tout seul?
Ouais, la plupart des titres, à peu près à 85%, ouais, tout seul.
Il y a des reprises?
Est-ce qu'il va y avoir une reprise? Normalement, il devait avoir une reprise, mais on l'a pas faite, celle-là. Non, non.
C'est qui on l'a pas faite?
Ouais, avec mon équipe.
Ok.
Avec mon équipe, je travaille avec pas mal de compositeurs. Mais non, 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 pas de reprise.
Donc un album qui devrait sortir bientôt.
On va essayer décembre. Décembre. Car là, juillet, août, je vais tout faire pour terminer. Et décembre. Je suis super excité. C'est une question de vie ou de mort pour moi.
De mort, non. Toi, non, jamais.
Non, si, si. Cet album, c'est... quand je dis c'est une question de vie ou de mort, c'est... je suis obligé de le faire.
Voilà.
C'est primordial. C'est super important pour moi.
Un conseil pour tous les artistes qui auraient envie, non pas de suivre tout ton parcours depuis le début, mais qui aimeraient rentrer dans une jolie carrière d'acteur ou de chanteur. Qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre?
Bah, prenez des cours, déjà. Si vous avez des enfants, faites comme moi, envoyez-les au Courana. Si vous habitez à Paris, c'est vraiment, ton école, c'est vraiment c'est un cocon, quoi. Mon fils l'adore, il adore être ici, c'est un cocon... c'est ma mère, c'est fantastique. Franchement, si, quand j'étais petit, si j'avais une école comme ça, ouais, j'aurais été vraiment aux anges. Prenez des cours. D'ailleurs, comment, après, vous n'êtes pas obligé de prendre des cours pour commencer, mais après, pour se perfectionner, c'est important. Ouais.
C'est une belle fin, hein, moi, je dis, hein, quand même. Prenez des cours.
Prenez des cours.
Formez-vous.
Bien sûr.
T'es prêt pour un petit speed quizzing?
Ok, on y va.
Attention.
Vas-y.
Donne-moi un truc qui te fait peur.
Oh. Ça dépend. Je peux avoir peur, mais quand c'est filmé, je suis un vaillant. Alors, je vais avoir peur de quelque chose, mais si c'est filmé, je peux... Crocodile, j'aime pas ça. Crocodile, serpent, j'aime pas.
Tout ça, c'est... Non.
Serpent, je peux le prendre, mais j'aime pas. La dernière fois, mon fils, il a fait un stage avec des serpents. Sa mère lui a offert un stage avec des serpents. Il est rentré dans une pièce, il avait plein de serpents autour du cou. Il me dit, rentre papa dans la pièce. Je ne pouvais même pas rentrer dans la pièce. Ah non, j'aime pas ça. Non, les reptiles, là, j'aime pas trop.
Pas de reptiles dans la vie de Tommy Bugsy. Quel est le dernier film que tu as vu?
Oh là là. En ce moment, je ne regarde pas trop de films. Je suis tellement fou de musique. C'est-à-dire, quand je me mets devant la télé, devant un film, je n'arrive même pas à le suivre. Je suis obsédé dans la musique. Mais si j'ai un film de... référence à regarder, un film que j'adore, c'est She's So Lovely de Cassavetes, de Nick Cassavetes, écrit par le papa John Cassavetes. C'est un vieux scénario que Nick Cassavetes, il a retrouvé dans le grenier de son père ou dans la cave. Il a retrouvé le vieux scénario She's So Lovely, peut-être, je sais pas, 30 ans après, et il a réalisé le film, et avec Sean Penn et Robin Wright Penn. C'est un film qui me bouleverse.
Quel est ton rêve d'enfant?
Mon rêve d'enfant... Alors, mon rêve d'enfant... Quand j'étais petit, je voulais être adopté par Pamela Ewing. Je voulais vivre à South Fork. Je voulais vivre dans la maison des Ewing. Et je pensais que... souvent, je faisais des rêves que je volais. Que j'allais à la... Pas voler.
Oui, oui, ça j'ai compris. Voilà.
J'allais dans la cour de récréation et je me mettais en apesanteur et je volais. Jusqu'à présent, je fais ce rêve-là. Que je vole. Mais genre à 10 mètres de hauteur, 10 mètres, 20 heures, 20, je crois, je suis... Et souvent, je fais ce rêve-là. Donc.
Est-ce qu'il y a une discipline que tu as toujours voulu faire?
Une discipline, c'est-à-dire
Un sport, un instrument de musique, un...
Ouais, quand j'étais petit, j'aurais aimé qu'on m'inscrive au football. Après, je me suis inscrit au football, mais c'était trop tard. J'avais 16 ans, 17 ans. Les parents, ils connaissaient les entraîneurs depuis petit. C'était une galère. Ils se connaissaient depuis 6 ans, ils ne te donnaient pas la balle. T'arrives de... t'arrives dans le club, c'est genre le mec qui vient voler notre place, tu vois. Donc,
ça, ouais.
C'était relou. Donc, c'est pour ça, inscrivez vos enfants très jeunes au cours de théâtre ou dans les sports.
Dormir ou faire la fête?
Oh. Pourquoi pas faire la fête et dormir? Hein, c'est mieux, non?
Ça te correspond tellement. Uh-huh. Tu préfères le rap actuel ou le rap de ton époque?
On va dire qu'au niveau des textes, je préfère au niveau des textes et de la profondeur, de l'écriture, je préfère le rap de mon époque. Mais il y a beaucoup de mélodies dans le rap de maintenant aussi. J'aime bien... ils n'ont pas peur de chanter. C'est très... Il y a beaucoup de mélodies, donc j'aime aussi. Mais je préfère mon époque.
La musique ou le théâtre?
Et je pense que même les jeunes de maintenant, ils préfèrent le... Moi, quand je vois des rappeurs, ils viennent me voir, ils me disent, franchement, les mecs, à l'époque, vous étiez lourds. Ils me disent, non, c'est trop compliqué, votre truc, il y a trop de mesures. Eux, ils font 8 mesures, nous, on écrivait des 24, des 34. Mais après, mais chaque génération a sa musique, voilà.
Bien sûr. Musique ou théâtre? Je pense que j'ai la réponse.
Musique.
Ta chanson du moment?
Quoique j'adore le théâtre aussi, mais là en ce moment c'est...
En ce moment c'est la musique. Il a dit musique, on gardera musique.
C'est une question de vie ou de mort.
Ta chanson du moment?
Oh! Putain, j'en ai tellement. J'écoute de la musique. Je crois que ma chanson du moment, c'est... Je crois que c'est mes chansons, hein. C'est mes chansons. Attends, je crois que c'est celle-là. Justement, je l'ai fait avec Marc.
Je viendrai te chercher le château.
Ah là 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 là! Petite exclue, mais on n'en aura pas plus pour aujourd'hui, si j'ai bien compris. Merci en tous les cas. Claudia Schiffer ou Cindy Crawford?
Aucune des deux. Aucune des deux.
Courana ou Courflorent?
À ton avis, Courana.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Stomy Bugsy sur cette fin d'année?
De terminer mon album, qui sorte, que je le donne dans les mains des gens, et que ma musique se propage partout. Voilà.
En tous les cas, tu le mérites. Vraiment.
Merci, Jeanne.
Je te connais un peu et tu as vraiment... t'es un bon gars.
Merci.
Voilà. Et c'est pas tous les jours qu'on a des bons gars. Et tu fais vraiment partie de la... d'une jolie famille. Voilà.
Je suis de la famille des Courana aussi.
Aussi, c'est vrai. Merci. En tous les cas, merci beaucoup Stomy Bugsy, merci d'avoir répondu présent. Et oui, il est venu, je suis passée par toutes les portes, mais
bravo.
Je l'ai eu. Si vous voulez retrouver cette interview, bah écoutez sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, sur notre chaîne YouTube ou sur Instagram au micro avec Johanna. Merci beaucoup et à très vite.
Merci Johanna, c'était super.